Prologue. On ne bosse pas. C'était notre décision à tous les trois. Nous avions prévu de nous retrouver pour passer quelques jours ensemble, au cœur de l'hiver, comme les années précédentes. On ne bosse pas, on se voit pour le plaisir, pour bavarder, rigoler, profiter de l'air pur. Notre chère amie Delphine nous avait invités dans son chalet en bois niché au cœur des Alpes. Tout était réuni pour une semaine de vacances dans ce havre de paix, autour d'un programme de balades dans la neige, de fondues au fromage, de bouquinades et de bonnes rigolades. Mais voilà. Nous avons fait des parties de luge, traversé des hameaux, observé les traces d'animaux sauvages dans la neige. Et à la fin du premier après-midi, nous nous sommes retrouvés dans le salon lambrissé de sapins dont les fenêtres ouvrent sur les cimes. Dans la bonne humeur, près de l'âtre, tandis que les flammes crépitaient, la discussion est repartie, comme si elle ne s'était jamais interrompue. Des thèmes graves se sont invités au milieu des éclats de rire, dans la douce chaleur d'une complicité inconditionnelle. Comment s'en sortir face à la dépendance? Comment maintenir le cap quand les émotions perturbatrices, les passions tristes ou un épais mal de vivre semble nous conduire tout droit au découragement. Un besoin de noter et de partager se remet à nous démanger. Nous commençons à nous dire qu'il serait dommage de laisser tout cela se perdre, de ne pas garder, pour nous au moins, une trace de ces échanges qui nous passionnent et nous enrichissent. Infatigable, je pose alors un micro sur la table, au cas où, pour ne rien regretter, ne rien oublier. Mes deux compères ne protestent pas. Après tout, on discute pour le plaisir, pour s'apprendre mutuellement des choses, faire évoluer nos points de vue. Alors un micro, qu'est-ce que ça change? Rien du tout. Enfin, presque. Car ce petit objet n'est pas une présence si anodine. L'air de rien, le savoir là nous stimule, nous pousse à ne pas faire la sieste pendant que les copains discutent, nous incite à développer et préciser nos idées. Finalement, il nous rappelle nos lectrices et nos lecteurs, leurs espoirs, leurs attentes, leurs légitimes exigences. C'est comme s'ils étaient là, avec nous, assis à nos côtés sur les canapés. Et peu à peu, nous nous prenons au jeu. Le thème de la liberté s'impose tout naturellement sous la forme d'une invitation à approfondir, à creuser, à bâtir un art de vivre, à façonner des outils. C'est que nous sommes constamment conviés à quitter le monde de pilotage automatique, à nous désincarcérer de la prison des habitudes pour tenter d'autres voies. Vaste programme qui exige assurément que nous récidivions, que nous nous remettions au travail pour considérer, sous un nouveau jour, l'un des grands chantiers de l'existence. D'instant en instant, nous sommes invités à oser une véritable conversion, nous attaquer aux toxines du mental, laisser les conditionnements pour descendre plus avant vers notre véritable nature, la liberté. Car si l'homme ne naît pas libre mais le devient, tout un entraînement de l'esprit est requis. C'est ce chantier que tous trois, avec notre expérience, nous avons tenté d'explorer. Se déprendre du, qu'en dira-t-on, quitter le narcissisme, l'égoïsme qui nous tire vers le bas, autant de défis qui appellent un engagement, une écologie de tout l'être que nous avons essayé de dessiner au fil de ces pages. Nous restons prudents quant à la portée de nos propos, qui pourraient ressembler à des enseignements, mais qui ne sont que des réflexions et le témoignage de trois amis en quête de progrès intérieur et soucieux de partager leurs expériences, manquées ou réussies, leurs efforts et leurs points de vue. Les propos que nous avons retranscrits ici reflètent fidèlement nos échanges spontanés et imparfaits, mais sincères et en accord avec nos choix de vie. Nous les avons simplement passés au tamis de ces questions. Ce que nous disons est-il assez clair? Pas de jargon, nous détestons ça. Est-ce utile? Ce qui nous intéresse, c'est de changer, plus que de parler. Est-ce accessible à chacun? et non réservée à quelques sages ou humains exceptionnels. La philosophie grecque a forgé un très beau concept, la métanoïa, cet effort sur soi, cette conversion intime qui vise à se transformer radicalement pour embrasser un art de vivre apte à nous préserver des passions tristes, des réflexes, de l'égoïsme, de la prison des habitudes. Avancer, progresser, se délester de ce qui alourdit, se libérer pour les autres et donc pour le monde tout entier, voilà le grand défi placé au cœur de cet ouvrage. Puisse notre humble dialogue vous donner l'envie, à votre tour, de vous y lancer. Introduction. Qu'est-ce que la liberté intérieure ? Matthieu. Le mot « liberté » évoque pour la plupart l'aspiration de tous les êtres à mener une vie exempte d'enfermement, d'oppression ou de privation de droits. Mais ce dont nous aimerions parler ici, c'est de la liberté intérieure. Nous sommes presque tous le jouet de nos égarements, de nos conditionnements, de nos pulsions, de nos conflits intérieurs, de nos pensées errantes et de nos émotions perturbatrices. Cette servitude est à l'origine de nombreux tourments. Comment sortir de la prison de ces mécanismes face auxquels nous nous sentons parfois impuissants, voire résignés? La difficulté principale vient du manque de discernement. Nous ne parvenons pas à identifier les rouages mentaux, ni à repérer le type de pensée qui nous asservissent. La sagesse, la lucidité et la compétence qui nous permettraient de retrouver notre liberté nous font trop souvent défaut. La liberté intérieure peut donc s'acquérir par une meilleure compréhension du fonctionnement de notre esprit et par une élucidation des mécanismes du bonheur et de la souffrance. Ce discernement doit aller de pair avec un entraînement qui permettra à notre esprit de gérer les états mentaux afflictifs avec aisance et intelligence. Nous aimerions que cet ouvrage apporte un éclairage sur les moyens de s'affranchir des causes de la souffrance. La liberté intérieure nous confère une grande force et nous rend moins vulnérables à nos propres pensées qui, parfois, surgissent en ennemis, mais aussi moins désorientés par les conditions extérieures qui ne cessent de changer. Nous sentant moins vulnérables, nous sommes moins centrés sur nous-mêmes et nous ouvrons à autrui. La liberté intérieure s'exprime donc naturellement par davantage de bienveillance. Bref, tout le monde y gagne.
Alexandre. À l'heure de s'attaquer à l'épineuse question de la liberté, me revient un souvenir. Le père Morand, aumônier de l'institut où j'ai vécu de 3 à 20 ans, m'avait mis entre les mains un robuste bouquin que je feuilletais avec vénération. Les pages jaunies et usées de ce manuel de philosophie en imposaient. J'avais 14 ans. Je me trimballais un paquet de complexes et me prenais de plein fouet ma différence, la singularité. Pressentant que je ne serais jamais tout à fait comme les autres, pris d'une sourde panique, je tentais de mettre la main sur quelques repères. Il me fallait une boussole, une direction. Justement, un chapitre de ce pavé traitait de l'aliénation, des esclavages, des passions tristes. Et l'auteur d'évoquer une pierre qui tombe, en chute libre. Drôle d'expression. Dans mon esprit cabossé, c'était le branle-bas de combat. Les questions fusaient de toutes parts. Qu'est-ce que la liberté, au fond ? Faire ce que nous voulons ? Donner libre cours à nos désirs ? Ne rencontrer aucune entrave ? Zéro obstacle ? Surtout, je m'interrogeais sur la marge de manœuvre restant au garçon infirme moteur cérébral qui fuyait déjà un destin tout tracé, rouler des cigares dans un atelier protégé. Comment ce gaillard déboussolé pourrait-il éviter cette prison intérieure, cette avalanche de diagnostics, cette ribambelle d'étiquettes ? Y avait-il un fatum ? Tout était-il gravé dans le marbre ?